Chapitre 19. Les villes de refuge. Le meurtrier involontaire. Quand l'Éternel ton Dieu aura retranché les nations dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays, et que tu les auras dépossédées, et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, tu sépareras pour toi trois villes au milieu de ton pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour le posséder. Tu t'en prépareras le chemin, et tu diviseras en trois parties le territoire de ton pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, et ce sera afin que tout homicide s'y enfuit. Versets 1 à 3. Remarquez comment la bonté divine brille dans ces premières lignes de notre chapitre. Voyez quelle peine notre Dieu se donne pour que la ville de refuge soit aussi accessible que possible pour le meurtrier. Les trois villes devaient être au milieu du pays, et non dans les coins écartés ou dans des endroits d'un accès difficile. Et non seulement cela, mais encore, tu t'en prépareras le chemin. Et de plus, tu diviseras en trois parties le territoire de ton pays. Tout devait être fait pour que le meurtrier puisse échapper facilement. La ville de refuge devait être rapprochée, tout comme la justice de Dieu est près du pécheur perdu, si proche qu'elle est à la portée de celui qui ne fait pas des œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Romains 4, verset 5. C'était le même Dieu qui exterminait les nations de Canaan par son juste jugement et qui pensait ainsi en grâce aux meurtriers. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Romains 11, verset 22. Et voici ce qui concerne l'homicide qui s'y enfuira pour qu'il vive. Celui qui aura frappé son prochain sans le savoir et sans l'avoir haï auparavant, comme si quelqu'un va avec son prochain dans la forêt pour couper du bois et que sa main lève la hache pour couper l'arbre et que le fer échappe du manche et atteigne son prochain et qu'il meure, il s'enfuira dans une de ses villes et il vivra. De peur que le vengeur du sang ne poursuive l'homicide pendant que son cœur est échauffé et qu'il ne l'atteigne parce que le chemin est long, et ne le frappe à mort, quoiqu'il ne mérite pas la mort, car il ne le haïssait pas auparavant. C'est pourquoi je te commande, disant, sépare-toi trois villes. Versets 4 à 7. Nous avons ici la description précise de l'homme pour lequel était la ville de refuge. S'il ne répondait pas à ces conditions, la ville n'était pas pour lui. S'il y répondait, il pouvait avoir l'assurance qu'un Dieu de grâce avait pensé à lui et lui avait procuré un lieu où il pourrait être en toute sécurité. Il était en parfaite sécurité, et de plus, il en avait la parfaite certitude. Il n'espérait pas être sauvé, il était sûr de l'être. Il était dans la ville et cela suffisait. Avant d'y arriver, il pouvait avoir eu de terribles angoisses, bien des doutes et bien des craintes, mais tout cela était passé. Dès l'instant où il avait franchi les portes de la ville, il était sauvé, et il le savait. Non par des sentiments, par des preuves ou des expériences, mais simplement par la parole de Dieu. Il savait qu'il était sauvé, parce que Dieu avait dit que la ville de refuge était un lieu de parfaite sécurité pour lui. Nous ne saurions nous imaginer un meurtrier, une fois entré dans la ville, s'exprimant comme le font beaucoup de chrétiens au sujet de l'assurance du salut. Plusieurs estiment qu'il est présomptueux d'être certain qu'on est sauvé. Si quelqu'un avait demandé au meurtrier « Êtes-vous certain d'être en sûreté ?» il aurait pu répondre « L'Éternel, le Dieu de notre alliance, a préparé un lieu de refuge pour moi, et je me suis enfui là. L'épée du vengeur du sang ne peut m'atteindre. » Le lecteur peut-il s'exprimer de la même manière à l'égard de sa sûreté en Christ ? Est-il sauvé, et le sait-il ? S'il ne l'est pas, que l'Esprit de Dieu travaille dans son cœur pour qu'il s'enfuie vers le sûr refuge que Dieu a préparé pour tous les pécheurs. Une ferme consolation est la part assurée de tous ceux qui se sont enfuis pour saisir l'espérance proposée. Hébreux 6, verset 18. Et si l'Éternel, ton Dieu, est en tes limites comme il l'a juré à tes pères, et qu'il te donne tout le pays qu'il a promis de donner à tes pères, parce que tu auras gardé tout ce commandement que je te commande aujourd'hui, pour le pratiquer, en aimant l'Éternel ton Dieu et en marchant toujours dans ses voies, Alors tu t'ajouteras encore trois villes à ces trois-là, afin que le sang innocent ne soit pas versé au milieu de ton pays, que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, et qu'ainsi le sang ne soit pas sur toi. Mais si un homme hait son prochain, et lui dresse une embûche, et se lève contre lui et le frappe à mort, en sorte qu'il meure, et qu'il s'enfuit dans l'une de ses villes, alors les anciens de sa ville enverront et le prendront de là, et le livreront en la main du vengeur du sang, et il mourra. Ton œil ne l'épargnera point. Et tu ôteras d'Israël le sang innocent, et tu prospéreras. Versets 8 à 13. Ainsi, nous voyons à la fois la grâce pour le meurtrier involontaire et le jugement pour celui qui avait méchamment tué son prochain. La gloire de Dieu et les exigences de son gouvernement devaient être maintenues. Le coupable tombait sous la sentence d'une justice inflexible. Tu ne l'épargneras pas. Nous ne devons jamais oublier la solennelle réalité du jugement divin. S'il était mieux reconnu, nous serions délivrés des vues erronées sur le caractère de Dieu. Les méchants doivent s'attendre à un jugement certain de la part d'un Dieu qui hait le péché. Si un meurtrier volontaire prétendait profiter du refuge préparé par Dieu pour le meurtrier involontaire, la main de la justice s'emparait de lui et le mettait à mort sans merci. Tel était jadis le gouvernement de Dieu en Israël, et tel il sera dans un jour qui approche rapidement. Maintenant encore, Dieu use de patience envers le monde. C'est le jour du salut, le temps favorable. Mais le jour de la vengeance est proche. Ne pas reculer les bornes. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, que des prédécesseurs auront fixé dans ton héritage, lequel tu hériteras dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour le posséder. Verset 14. Ce passage nous fait voir de quelle manière Dieu s'intéressait à toutes les circonstances de son peuple. Les bornes ne devaient pas être déplacées. La part de chacun devait demeurer intacte selon les limites tracées autrefois. L'Éternel avait donné le pays à Israël, et il avait assigné à chaque tribu et à chaque famille sa position. Celle-ci était marquée par des bornes bien visibles, de sorte qu'il ne pouvait y avoir aucune confusion, aucune collision d'intérêts, aucun motif de chicane au sujet des propriétés. Chacun avait le bonheur de savoir que les yeux de Dieu reposaient sur son petit domaine et que sa main le protégeait contre celui qui voudrait s'y introduire. Cependant, ce passage a aussi une signification spirituelle. Il y a, pour l'Église de Dieu et pour tous les croyants, des bornes spirituelles qui marquent avec exactitude les limites de notre héritage céleste, des bornes établies anciennement par notre Seigneur et par ses apôtres. Dieu ne permet pas qu'on les déplace impunément. Malheur à l'homme qui ose les toucher. Il aura à en rendre compte à Dieu. Nous devons bien nous garder de faire, dans l'Église de Dieu, ce qui correspond au déplacement des bornes en Israël. Si quelqu'un en Israël avait proposé un nouvel arrangement dans l'héritage des tribus pour diviser les propriétés d'après un nouveau principe et établir de nouvelles limites, il aurait été en conflit ouvert avec la volonté que Dieu avait exprimée. Aujourd'hui, sous prétexte de progrès et de développement, beaucoup voudraient toucher aux bornes de la vérité chrétienne et nous offrir les lumières de la science et les ressources de la philosophie au lieu des précieuses instructions de Christ et de ses apôtres. Grâce à Dieu, nous n'en avons nul besoin. Ayant Christ et sa parole, que nous faut-il de plus? Qu'avons-nous besoin des progrès et des développements humains, puisque nous avons ce qui était dès le commencement? Que peuvent donner la science ou la philosophie à ceux qui possèdent toute la vérité? Sans doute, nous désirons faire des progrès dans la connaissance de Christ et voir sa vie plus pleinement manifestée en nous, mais la science et la philosophie ne peuvent nous aider pour cela. Bien au contraire, elle ne ferait que nous entraver. Des témoins. Un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme pour une iniquité ou un péché quelconque, quelque péché qu'il ait commis. Sur la déposition de deux témoins ou sur la déposition de trois témoins, la chose sera établie. Verset 15. C'est un sujet que nous avons déjà traité, mais sur lequel on ne saurait trop fortement insister. Voir chapitre 17. Nous pouvons juger de son importance par le fait que non seulement Moïse en parle à plusieurs reprises, mais que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et le Saint-Esprit par l'apôtre Paul dans deux de ses épîtres insistent sur le principe de deux ou de trois témoins. Quelque digne de confiance qu'il soit, un seul témoin ne suffit pas. Si cette règle était mieux suivie, bien des disputes et des débats seraient évités. Nous pouvons, dans notre prétendue sagesse, nous imaginer qu'un témoin de toute confiance devrait suffire. Souvenons-nous que Dieu est plus sage que nous, et que notre vraie sagesse, aussi bien que notre sécurité morale, est de nous en tenir fermement à sa parole qui ne trompe jamais. Quand un témoin inique s'élèvera contre un homme pour témoigner contre lui d'un crime, alors les deux hommes qui ont le différend comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges qu'il y aura en ces jours-là. Et les juges rechercheront bien. Et si le témoin est un faux témoin, s'il a témoigné faussement contre son frère, alors vous lui ferez comme il pensait faire à son frère, et tu ôteras le mal du milieu de toi. Et les autres l'entendront et craindront, et ne feront plus désormais une pareille méchante action au milieu de toi. Et ton œil n'épargnera point. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Versets 16 à 21. Nous voyons ici combien Dieu hait les faux témoins. Et nous devons nous rappeler que, quoique nous ne soyons pas sous la loi mais sous la grâce, le faux témoin n'est pas moins haïssable aux yeux de Dieu. Mieux nous comprendrons la grâce qui nous a été faite, plus nous aurons en horreur tout faux témoignage, toute calomnie et toute médisance, sous quelque forme que ce soit. Que le Seigneur nous préserve de toute chose semblable.